Vous écoutez Dans la tête d'un leader, le podcast de Marseille qui croise le management des navigateurs et des entrepreneurs. Marseille, le management par la voile au plus haut niveau. Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un leader. Je suis Amandine Deslandes, directeur associée de Marseille, organisme de formation, management et leadership. Dans cet épisode, je reçois Adrien Lefebvre. Adrien, c'est une tête bien faite et un grand cœur. Diplômé d'un double master en biochimie et en vente et management, il prend ses premières fonctions dans le domaine du marketing chez le géant Pfizer. Il y passe 10 ans à mettre à profit sa double compétence. Il rejoint ensuite Zoetis en tant que directeur marketing. Sa carrière est lancée. Mais les choses ne se passent pas exactement comme il l'aurait souhaité. Il y reviendra dans cet entretien. En 2016, il retourne sur les bancs de l'école au sein de l'exécutif MBA d'HEC Paris. Il y découvre, ou redécouvre plus exactement, l'impérieuse nécessité de prendre en compte la dimension sociale dans les nouveaux business models. Il crée alors, avec deux camarades de promotion, Sébastien et Florian, la première marque de maroquinerie française responsable, Orega. Sur son temps libre, Adrien ne compte pas. Il est business angel, il mentore des startups et se retrouve au board de plusieurs pépites comme Nanny Bag, Digger's Factory ou encore Recrutimo. Il y a un peu moins d'un an, il devient directeur marketing de l'entreprise Orvea, une entreprise de services innovants visant à coordonner les différents corps d'État sur les chantiers pour optimiser la gestion des dépenses communes et le temps de travail. Dans cet entretien, Adrien nous partage ses réussites et ses échecs. Il nous explique comment il apprend chaque jour de nouvelles méthodes pour être performant, mais surtout donner du sens à sa vie professionnelle. Des réflexions humbles qui donnent envie de réaliser ses rêves. Bonjour Adrien et merci d'avoir accepté notre invitation dans le podcast de Marseille.
Bonjour Amandine, merci pour ton invitation, je suis ravi d'être là.
Alors, pour qu'on se chauffe tous les deux dans cet entretien, je te propose de démarrer en nous partageant ta devise. Alors, je ne sais pas si tu en as une, peut-être c'est pas une devise formelle, simplement quelque chose qui drive un petit peu ton parcours et ton fonctionnement au quotidien.
Ah ben, on commence fort. Une devise, bon, c'est plus un état d'esprit en fait. Hein. J'essaye de toujours faire ce que j'ai envie de faire et d'avancer pour pas regretter. Et en ce moment, j'essaie d'appliquer ça au jour le jour. Je sais pas si c'est l'atmosphère ou l'ambiance qui m'a motivé à faire ça au jour le jour, mais voilà, j'essaye en début de journée ou en fin de journée de faire un petit peu un bilan de ce que je dois faire ou de ce que j'ai fait, et j'essaye de me motiver comme ça au quotidien en me disant bah aujourd'hui il faut que j'arrive à faire ça, demain il faut que je fasse ça, et j'essaie de me motiver comme ça et d'avancer et de me dire que rien n'est impossible.
Voilà. Ah, c'est bien, on va justement parler de motivation, tu pourras nous en dire un petit peu plus. Alors, toujours puisque on a présenté ton parcours, mais pour que nos auditeurs puissent un petit peu mieux te connaître et te comprendre, est-ce que tu peux nous partager deux moments clés de ta carrière? Alors, qu'est-ce que j'appelle des moments clés? Ça va être ce moment où tu prends une décision, tu as un tournant dans ta carrière, ou alors une rencontre peut-être qui a changé le cours de ton parcours professionnel.
Alors, deux moments clés, je dirais que ça peut être deux moments qui ont été dépendants l'un de l'autre. Le premier, c'est quand moi j'ai débuté ma carrière dans un laboratoire pharmaceutique, un grand laboratoire d'ailleurs qui fait la une en ce moment, qui fait essentiellement des vaccins. Et j'ai rencontré un homme à cette époque qui s'appelait Pascal et qui m'a fait confiance quand j'étais responsable marketing au niveau France et qui m'a donné ma chance à 36 ans de passer au niveau international et d'avoir de belles responsabilités en devenant directeur marketing Europe. Et ça a été un très grand challenge pour moi parce que il m'a fait confiance sur mon potentiel et mes compétences, mais je manquais peut-être probablement d'expérience et d'expertise, mais il m'a lancé comme ça dans le grand bain. Et donc j'ai eu pendant un an et demi une belle ascension avec beaucoup de responsabilités, des vrais challenges, monter une équipe à l'international, faire beaucoup de management transversal, apprendre la diversité culturelle. Et puis, malheureusement, ça s'est arrêté net parce qu'il y a une restructuration assez brutale qui s'est opérée. Et ça a été le deuxième changement où j'ai perdu mon emploi en pleine ascension comme cela. Et là, du jour au lendemain, je me suis retrouvé à la maison à rien faire. Et ça, ça a été une période assez compliquée et qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Mais ça a été le début d'un long chemin d'introspection et de découverte. Et puis, ça a été un vrai tournant parce que ça m'a ouvert l'esprit, les yeux sur énormément d'autres choses. Et ça m'a donné envie de faire plein d'autres choses.
Eh ben, effectivement, c'est sûr que ça doit être marquant quand on se retrouve dans cette situation-là. Et justement, comment tu as vécu ce passage d'une carrière, comme tu l'as décrit, en pleine expansion, d'un coup, plus rien?
Ça a été compliqué, hein. C'est surtout psychologiquement que c'est difficile parce qu'on perd confiance en soi, on se pose beaucoup de questions, on ne sait plus trop où aller. Et puis moi, c'était mon premier employeur, donc j'ai commencé commercial et j'ai gravi les échelons au fur et à mesure. Donc entre l'âge de 25 ans et 36-37, j'avais jamais candidaté, j'avais jamais postulé, j'étais pas du tout dans l'état d'esprit d'aller démarcher ou de trouver un nouvel emploi. Donc ça a été difficile de se remettre en marche. Donc j'ai fait une formation, voilà, je suis reparti à l'école. Et c'est là où j'ai découvert que il y avait énormément de possibilités, énormément de choses à faire, et que en fait c'est comme ça que moi je l'ai vécu. C'était presque dommage de faire une carrière dans un seul écosystème, dans une seule industrie, alors qu'on peut découvrir des milliers de choses. Alors c'est sûr que ça nécessite de faire des choix ou des sacrifices. Donc moi je les ai subis, mais suite à cette intégration dans un nouveau parcours de formation, j'ai décidé de monter ma société. Donc, je suis devenu entrepreneur. Et donc, en fait, c'est toujours une question d'équilibre entre ce que l'on gagne et ce que l'on perd. Donc, d'un côté, j'ai perdu du confort, un statut, une équipe. Et puis, de l'autre côté, j'ai gagné en liberté, en diversité, en culture, en prise de risque. Donc, c'est toujours l'équilibre entre l'une et l'autre. Mais pour répondre à ta question, ça nécessite vraiment de devenir agile. Et c'est pas un terme, moi c'est un terme où tout le monde parle d'agilité, d'adaptation, ce genre de choses. Mais tant que tu le vis pas vraiment, je l'avais pas vécu comme ça. Je pensais que je l'étais pas du tout. Mais voilà, au fur et à mesure, on le devient. Et aujourd'hui, c'est peut-être, pour revenir sur l'introduction de notre rendez-vous, de notre discussion, c'est ce qui fait que maintenant je suis arrivé à un stade où même au jour le jour, voilà, je me fixe des petits objectifs qui font que d'une semaine sur l'autre, je peux totalement changer d'état d'esprit ou de perspective dans la façon dont j'aborde mes projets.
Merci pour déjà ce que tu viens de nous partager sur ton parcours. Le fonctionnement de ce podcast, c'est d'évoquer un certain nombre de sujets autour du leadership sur lesquels on demande à nos invités de nous partager leurs tips, leurs petites astuces du quotidien pour fonctionner du mieux possible. Donc, le premier thème que l'on aborde en règle générale, c'est la prise de décision. Donc, est-ce que tu peux, toi, nous expliquer comment tu prends tes décisions, notamment tes décisions stratégiques, pas forcément tes petites décisions du quotidien, mais plus de nous partager, voilà, quels sont les éléments que tu prends en considération, comment tu décides concrètement dans ton quotidien, que ce soit en tant que salarié ou dans tes expériences d'entrepreneuriat?
Alors, c'est une très bonne question. Moi, je fonctionne beaucoup à l'impulsivité. Et pour essayer de le cadrer, en général, je choisis un chemin et je commence à itérer autour de ça. Donc, quand j'ai un scénario à travailler ou une prise de décision à faire, on a tout de suite un premier ressenti. J'essaie de faire quelques exercices où je me projette tout de suite dans le futur de cette décision, où j'évalue différents scénarios qui pourraient se mettre en place. Je pose ça par écrit. Et puis, en général, très vite, on se rend compte si c'est quelque chose qui était juste ou complètement farfelu. Et voilà, donc moi, je fonctionne beaucoup par itération où j'essaie de faire quelque chose tout de suite, je le mets en place, et si ça marche pas, je corrige direct.
Et est-ce que tu te souviens d'un exemple en particulier, d'une décision vraiment très importante que tu as eu à prendre, et quelle méthode t'as mis en place à ce moment-là, et est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que si c'était à refaire, tu referais la même chose?
Oui. En fait, quand tu, bah, tout dépend de l'écosystème dans lequel tu évolues et dans l'environnement dans lequel tu es. Ce qui est assez important, c'est toujours de trouver des, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça, c'est de, quand t'as des prises de décision difficiles avec, qui demandent du changement ou de l'implication, c'est deux choses. Le premier, c'est de, bah, toujours le partager avec ton entourage proche. Donc ça peut être ta famille si jamais tu parles du boulot à la maison, mais ça peut être ton manager ou tes collègues. Et puis commencer à sentir un petit peu leur ressenti sans forcément tout dévoiler, parce qu'il faut toujours arriver à avoir une certaine distance, parce que nous on a toujours des biais cognitifs qui font que on est attiré par ce que l'on aimerait voir arriver ou ce que l'on aimerait vraiment faire, mais qui sont pas forcément justes. Donc partager cela et puis trouver des alliés. Les alliés, c'est vraiment quelque chose de très important dans le milieu professionnel. C'est pas forcément des gens qui sont membres de ton équipe, mais c'est des personnes qui vont avoir un rôle d'influence dans la prise de décision finale ou dans sa mise en application. Et une fois que t'as pu sonder et trouver des alliés, bah, quand tu vas prendre ta décision, tu vas impulser un changement auprès de tes équipes, bah, même si tu as des réticences, tu auras le fait de se reposer sur quelqu'un, un regard, un commentaire, une question. Des fois, ça peut faire basculer dans le cadre d'une réunion ou un meeting, ça peut faire basculer d'un non vers un oui. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui, au fur et à mesure des années, j'ai trouvé que c'était une arme très puissante et c'était vraiment quelque chose qui fonctionnait bien notamment dans des changements stratégiques ou dans des prises de décision qui nécessitent de la part des salariés beaucoup d'efforts dans leurs habitudes ou dans leur implication. Donc le fait d'avoir des alliés, je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Mais il faut avoir le courage de partager ses opinions et de voilà, d'impliquer quelqu'un qui n'est pas forcément décisionnaire.
Alors là, c'est intéressant, tu me donnes une opportunité d'ouvrir la discussion sur un sujet connexe, qui est la prise de décision collective, puisque là, la question, effectivement, c'était ta prise de décision à toi, et tu me fais part de l'implication que tu donnes aux gens qui t'entourent. Mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as vécu, toi, dans ton parcours, quand on doit décider à plusieurs, et quelles sont, selon toi, les bonnes méthodes pour décider efficacement à plusieurs? Parce que quelquefois, ça peut vite ressembler à du consensus mou.
Oui, tout à fait. Bah, c'est le risque. C'est que, bah, au final, à force de vouloir tout équilibrer et satisfaire tout le monde, on se retrouve à ne pas avancer et à rester coincé entre deux choses dans un ventre mou qui font que, bah, on vivote et ça n'avance pas. Donc, c'est une très bonne question. Et effectivement, bah, c'est vraiment la limite. Donc ça, je sais pas si c'est théorisé ou si c'est vraiment du feeling, mais c'est vrai qu'il faut toujours arriver à placer le curseur au bon endroit entre ce qu'on appelle une équipe libérée ou une entreprise libérée où chacun a sa décision, peut s'exprimer. Mais quoi qu'il arrive, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un à la fin qui assume une prise de risque et qui assume un choix clair et qui opte pour une direction. En fait, moi, je trouve que c'est mieux de faire un choix qui est clair et des fois qui est segmentant et qui peut être dur ou difficile à accepter pour certains, et d'avancer dans un sens et de se rendre compte au bout d'une semaine, deux semaines, voire un mois, OK, c'était pas la bonne décision, on s'est trompé, j'en prends la responsabilité, on corrige tout de suite, on revient en arrière, mais au moins, on est sûr que cette direction prise, c'est pas la bonne. Et moi, je l'ai vécu il y a pas très longtemps dans la société dans laquelle je travaille actuellement. Voilà, on a eu une conviction, on a eu des certitudes sur un choix stratégique, un nouveau modèle économique à mettre en place. On a travaillé deux mois dessus sans relâche. Et puis, au fur et à mesure du temps, tu te commences à avoir des doutes. Tu commences à lever des objections, ou te dire mais est-ce que c'est vraiment la bonne chose? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Ça te prend beaucoup de temps, ça te demande de l'investissement financier. ça te demande beaucoup d'énergie. Et puis là, au bout de deux mois, on s'est dit, mais en fait, non, ça n'a pas l'air d'être le bon chemin ou la bonne décision. Et puis là, moi, j'étais tenté de continuer en me disant, bah, ça fait deux mois que je travaille là-dessus, c'est difficile, j'ai investi beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Mais là, mon manager, avec qui, enfin, c'est le fondateur de la société avec qui je travaille, il dit non, c'est pas, on peut pas continuer comme ça, c'est pas grave. Au moins, on a appris que c'était pas le bon chemin et que c'était pas le bon endroit où il fallait aller. Et donc, c'est d'accepter, presque d'encaisser un échec, en fait, et de dire, et de passer à autre chose. Mais c'est pas du temps perdu. En fait, c'est du gain que t'as eu et qu'il faut que t'arrives à matérialiser et à valoriser, en fait. Voilà. Donc, j'espère que ça répond à ton interrogation.
Tu réponds parfaitement à ma question, effectivement, et t'abordes un sujet qui est stratégique dans la prise de décision et que nous, on aborde beaucoup dans nos parallèles voie l'entreprise, puisqu'on parle de sport de haut niveau très souvent, de se dire comment est-ce que je fais face à l'échec et ou à la mauvaise décision, parce que quelque part, c'est un peu ce que tu dis là, c'est comment est-ce que plutôt que de m'enfoncer dans la mauvaise décision, j'accepte d'avoir perdu quelque chose pour ne pas perdre plus, en fait, quelque part.
Là, c'est tout à fait ça. Mais tu sais, on parle souvent de, notamment en France versus les États-Unis, la culture de l'échec, c'est pas grave, monte ta start-up, monte ta boîte, et puis même si tu échoues, c'est pas grave, etc. Mais en fait, cette culture de l'échec, elle doit être déclinée à tous les niveaux et au quotidien. Et je sais pas, donc moi, je suis plus orienté marketing. Donc quand tu décides un nouveau positionnement ou une nouvelle campagne ou un nouvel axe de développement, bah, si tu t'es trompé, c'est pas grave. Mais il faut l'accepter. Et ça, c'est pas simple. Il faut faire un travail sur soi en disant, ça remet pas en question tes compétences ou ton expertise, c'est juste que tu as pris une décision, tu as cru en quelque chose, tu es allé à fond, mais tu t'es rendu compte à un moment que c'était pas le bon choix, ou tu t'es trompé dans l'analyse, ou tu t'es trompé dans la mise en exécution. Mais là, beaucoup de personnes vont continuer en se disant c'est pas grave, je continue, ça finira par marcher. Ben non, ça marchera pas. Donc vaut mieux arrêter avant qu'il soit trop tard, en fait. Et ça, c'est un enseignement que j'ai pas découvert récemment, mais en tout cas, je me l'applique récemment et j'ai eu un déclic il n'y a pas très longtemps, justement.
Ça nous emmène vers notre deuxième thème de l'entretien, qui est la gestion de crise. Alors, nous, chez Marseille, on a toujours beaucoup parlé de gestion de crise, mais force est de constater que depuis un an, ça devient vraiment prégnant dans nos modes de fonctionnement. Est-ce que toi, tu pourrais nous partager un moment de crise que tu as vécu dans ta vie professionnelle et comment tu as réussi à y faire face ?
Bon, j'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête. Donc, moi, pour revenir sur mon parcours, donc j'ai débuté salarié. Après, j'ai eu une rupture, comme je l'ai expliqué en introduction. Et puis, j'ai monté ma société. J'ai finalement retrouvé un nouvel emploi. Donc, j'ai eu un parcours en dents de scie. Donc, je pourrais probablement te partager deux exemples qui sont un dans le cadre de l'entreprise en tant que salarié et puis un dans le cadre d'un projet professionnel que j'ai monté, donc en tant que dirigeant et fondateur d'une entreprise. Ce sont pas vraiment les mêmes enjeux parce que d'un côté, tu mets en péril, on va dire, ta fonction, ta crédibilité, ta légitimité dans un écosystème, dans une équipe, dans un environnement qui est bien défini. Et puis, l'autre, tu joues un petit peu ton projet et probablement des finances et qui peut avoir des implications de vie sur ton foyer, ta famille, etc. Mais au final, c'est des choses qui se ressemblent fortement et qui ont des mêmes similitudes. Enfin, oui, bon. Qui ont des similitudes. Donc, en gestion de crise, après, tu as toutes les techniques classiques que l'on apprend à l'école ou donc qui ont été théorisées, mais c'est à peu près toujours les mêmes choses. C'est partager, écouter les autres, essayer de glaner des informations ou des points de vue que tu n'aurais pas forcément. Et puis là, on revient quand même à la prise de décision. Donc, quand je travaillais dans l'industrie pharmaceutique, on avait eu à l'époque d'un lancement un problème sur... de rumeurs ou de bad buzz sur un de nos produits qui fonctionnait pas forcément comme on le souhaitait, ou en tout cas il y a eu un effet de la communauté maintenant amplifié avec les réseaux sociaux qui n'était en tout cas pas du tout favorable à notre produit. Et donc là, il faut réagir vite, il faut réagir bien et il faut réagir avec hauteur. Et donc tout seul c'est toujours compliqué parce qu'on c'est quelque chose qu'on a besoin de partager avec d'autres personnes, avec donc ça c'est, il faut pas avoir peur d'aller frapper à la porte d'un membre de l'équipe ou du top management et de partager ça et d'avoir son point de vue. Et une fois que tu as toutes les cartes en main, bah tu prends la décision qui, encore une fois, qui te, pour laquelle tu penses qu'elle est, que c'est la bonne. Mais là il faut, c'est vrai que le filet il est moins solide, hein, parce que là, t'as plus le droit à l'erreur puisque t'es déjà dans la gestion de crise. Donc nous, quand ça nous est arrivé, bah, on avait décidé à l'époque de rien faire. Et parfois, ne rien faire, bah, ça permet de pas envenimer la situation et de rajouter de l'huile sur le feu. Et c'est ce qui fait que dans le temps, ça s'est estompé et que finalement, on est passé de quelque chose qui était au stade de rumeur à plus rien. Alors que si on avait agi ou réagi, on aurait alimenté quelque chose qui aurait pu se concrétiser et après devenir une vérité. Bon, ça, c'est facile de le dire après, mais en tout cas, c'est ce que l'on avait à faire à l'époque. Et puis, dans le cadre de ma création d'entreprise, je dirais que c'était plus une prise de décision stratégique où, bah, quand tu arrives dos au mur et que tu sens que ton projet, il est en train de mourir ou que t'es, que ça va pas du tout dans le sens que tu veux, et ben tu te rends compte que dans la difficulté et quand tu es au pied du mur, parfois c'est là où tu es le meilleur. Et nous à l'époque avec mes deux associés, on a vécu un moment très difficile où on pensait que tout était perdu, et finalement c'est là où un membre de l'équipe vient avec une idée, la propose, crée une émulsion positive et arrive à embarquer les autres derrière lui pour se relancer et redynamiser. Donc c'est tout le temps une question d'état d'esprit en fait, hein, de volonté, de voir toujours le côté positif des choses en fait. Voilà, c'est pour résumer, ce serait ça.
Je retiens deux choses de ce que tu nous dis là et qui sont peut-être quelque peu à contre-courant, hein, de ce qu'on peut entendre parfois dans les grandes écoles. Tu nous dis bah parfois faut rien faire. Donc ça, j'aime bien aussi cette approche de dire si on ne contrôle pas l'environnement, on peut contrôler ce qu'on fait soi, et quelquefois ça veut dire ne rien faire. Et puis cette capacité aussi de rebondir au moment où t'es dans le plus dur, dans le creux de la vague. Et quelque part, je pense que depuis le début de cet entretien, tu nous partages vraiment cette approche-là avec beaucoup d'humilité quelque part. C'est ça que j'entends aussi, c'est-à-dire ta capacité à te remettre en question et à dire ok, bah là je sais pas ou je peux pas. C'est quelque chose d'important, j'ai l'impression, dans ta manière de fonctionner.
Oui, mais c'est exactement ça. Et en fait, moi, au fil du temps, j'apprends à mieux me connaître. Bon, ça, c'est un adage qui est connu, mais au final, c'est de se rendre compte que c'est pas parce que tu échoues, que tu fais pas la bonne décision à un instant précis, que tu es mauvais ou que tu as perdu tes compétences. Donc, il faut garder confiance en soi. Et on fait jamais tout bien, mais on fait aussi beaucoup de bonnes choses. Et donc, c'est arriver à déceler ce qui est important et ce qui mérite vraiment d'être défendu et ton investissement. Mais ça va dans les deux sens. Et c'est arriver à se remotiver tous les jours. Bah, c'est comme les sportifs de haut niveau. Bon, dans une autre échelle, mais c'est de se dire, OK, j'ai perdu un match, mais c'est pas grave. C'est que une étape parmi d'autres dans ton parcours et dans ton évolution. Et en fait, quand tu regardes derrière toi, tu dis bah voilà, j'ai accompli ça de cette manière-là. Là, je l'ai fait d'une autre manière. Et puis t'essayes d'en retirer des modélisations, des choses. Mais même si c'est inconscient, et tu progresses comme ça en fait. Donc tout dépend comment tu perçois les choses et comment tu apprécies ton environnement et ce que tu fais. Mais tu peux être un excellent manager ou un excellent leader en étant dans une boutique de prêt-à-porter ou en étant boulanger ou en étant directeur de 15 personnes. Voilà, c'est tout dépend comment tu te repositionnes dans ton écosystème et comment tu tu te présentes face aux autres et comment tu dis, OK, moi, je suis expert dans ce que je fais, je le fais bien et c'est surtout, je prends du plaisir à le faire. Voilà.
Bien sûr. Et du coup, tu parles de cette notion de plaisir et ça nous emmène aussi vers un autre sujet que je voulais aborder. C'est cette capacité à rester focus, à rester concentré, notamment dans les temps forts, mais aussi au quotidien. Et quelque part, cette notion de plaisir, j'imagine aussi qu'elle apporte à cette discipline. Pour le coup.
Oui, alors ça c'est sûr, c'est que quand tu prends du plaisir dans ce que tu fais, bah, t'as pas l'impression de travailler, donc ça c'est vrai, mais c'est pas tout le temps le cas et c'est souvent des exceptions. Néanmoins, c'est vrai que pour rester concentré ou focus, il faut pas forcément tout le temps avoir envie de produire quelque chose. Aujourd'hui, on est vraiment dans cette démarche de tout le temps produire, d'être efficace, mais avancer ou travailler, c'est aussi réfléchir, c'est aussi prendre du temps, c'est aussi des fois prendre du recul et de la hauteur, et ça nécessite aussi de des fois calmer le rythme, de trouver un moyen de s'aérer l'esprit, de s'informer, mais ça fait quand même partie de ton apprentissage et de ton quotidien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tout le temps distrait entre le téléphone, les réseaux sociaux, les notifications, il y en a dans tous les sens tout le temps. Donc, il faut arriver aussi à se donner une ligne de conduite ou une je sais pas comment ils appellent ça, les sportifs, là. Une rigueur de travail où, voilà, tu te dis, alors, moi, je fonctionne pas du tout comme ça, mais de dire, bah voilà, le lundi ou tel jour, je m'accorde 1 heure pour faire ça. Là, je m'accorde 3 heures pour faire ça. Là, je ferme mon téléphone et je lis ce que je... Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on est tout le temps distrait et qu'on est tout le temps happé par d'autres choses, on a du mal à rester concentré sur une tâche. Mais c'est quand même là où tu es le plus productif, c'est quand tu fais une tâche de A à Z.
Oui, c'est sûr. Mais du coup, toi, tu le dis effectivement, et pour te connaître un petit peu, je sais que c'est pas forcément ton mode de fonctionnement. T'es plutôt quelqu'un qui multitask, on va dire.
Exactement. Moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça.
Et du coup, comment tu fais pour gérer ton stress et arriver quand même à garder ta capacité de concentration? Tu médites, tu fais du sport. C'est quoi ton secret?
Effectivement, je suis quelqu'un qui... Alors, entre ce que je dis et ce que je fais, des fois, il peut y avoir un écart, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien faire beaucoup de choses en même temps. C'est ça qui me stimule, en fait, d'être toujours en tension et d'être toujours dans un rythme un petit peu effréné où, en fait, je sais pas si certains de vos auditeurs partagent la même chose, mais c'est d'avoir cette peur du vide ou cette peur du temps calme, en fait. Des fois, on a l'impression que, en tout cas, moi, j'ai l'impression que quand je fais rien, il y a rien qui se passe, alors que pas du tout. Et c'est vrai, donc c'est toujours cette course à vouloir avoir 50 000 trucs à faire en même temps. Mais des fois, la contrepartie, c'est de se dire à la fin de la journée, OK, j'ai avancé sur 10 sujets, mais en fait, j'ai rien fait. Et donc, j'ai commencé un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures, que pas mal de gens connaissent, et qui t'apprend comme ça plein de petites techniques pour optimiser ton temps et ta productivité. Et donc, j'essaye d'appliquer certaines choses que j'ai lues de ce livre-là, notamment de faire le bilan à la fin de la journée en disant, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai produit? Qu'est-ce qui a valu le coup? Et combien de temps ça m'a pris? Et au final, tu te rends compte que les choses qui ont de l'importance, quand tu les fais bien, ça va te prendre 2, 3 heures dans une journée, et tout le reste, en fait, tu brodes et tu t'éparpilles, tu papillonnes, tu vagabondes, et du coup, t'as l'impression de t'occuper et d'avancer, mais finalement, tu fais pas grand chose. Donc, c'est très important. Et effectivement, j'ai commencé un peu de faire. Il y a 3-4 ans, je faisais un peu de méditation, mais ça, c'était plus pour canaliser le stress ou l'anxiété. Quand t'es amené à faire des grandes présentations devant des auditoires de 20 à 100 personnes, des fois en anglais, c'est vrai que là, ça nécessite du calme et donc il faut travailler sa respiration. Et c'est vrai que la méditation, ça te permet de reprendre conscience du soi. Voilà, toi, tu reconnectes avec toi-même et tu te dis, OK, là, je contrôle mes émotions. Et puis, en fait, tu t'essayes de sortir ton esprit de ton corps en regardant un peu là où t'es, ce que tu fais, et puis là tu relativises tout de suite et tu te rends compte que finalement c'est possible, qu'il y a plein de gens avant toi qui l'ont fait, et donc là en général moi ça me calme et ça me permet de canaliser mon énergie.
Effectivement, c'est un truc que j'entends souvent dire, Christopher, aussi, de se dire que les autres ont déjà fait avant. Donc, après tout, si ça a marché pour les autres, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour
toi. Ben ouais, parce qu'au final, tu le vois bien maintenant, quand tu te balades sur LinkedIn, tu vois toutes les 5 minutes, tu vois un super post, un super commentaire, une super initiative. Et donc, tu te dis, bon, bah, au final, plein de gens font plein de choses extraordinaires. Donc, si tout le monde y arrive, toi aussi tu peux y arriver. Il y a pas de secret. C'est en fait, on est tous bons en quelque chose. Il faut juste arriver à trouver ce que c'est et après appuyer à fond dessus et l'entretenir.
Et ça nous fait le lien vers le dernier thème de ce podcast, qui est la motivation. Donc, quelque part, là, tu nous emmènes un peu dans cette direction-là. Et donc, du coup, la question que j'aimerais te poser, c'est quelles sont tes astuces pour te motiver, toi déjà, en tant qu'individu, mais éventuellement, quand tu interagis avec des équipes ou des partenaires, pour motiver les gens autour de toi?
Alors ça, c'est une très bonne question et c'est assez difficile parce que ça, je trouve que c'est très personnel. Et en fait, ça dépend vraiment de qui tu es et de ce qui te motive et de là où tu veux aller. Et donc, malheureusement, tu peux avoir des motivations qui sont pas forcément saines ou des motivations qui sont pas forcément en adéquation avec ton entourage. Et surtout, tu peux avoir des motivations qui évoluent dans le temps en fonction de ton âge, de ton expertise, du moment de vie dans lequel tu te trouves. Donc, c'est pas simple. Je sais pas si c'est quelque chose que je reproduis de manière systématique. Je pense pas. Donc, moi, je fonctionne beaucoup à l'objectif en me disant, OK, je veux atteindre ça pour telle et telle raison et je vais essayer de me définir un parcours pour y arriver en essayant de fixer l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 pour arriver à l'étape finale. Donc, j'essaie de me définir ce genre de choses. Et après, donc, pour le dire autrement, tu découpes ton objectif en différentes petites étapes et tu avances par... Les designers appellent ça des sprints. Donc, objectif 1 qui va contribuer à l'objectif final. Après, une fois que tu as fait l'objectif 1, tu passes à l'objectif 2 et tu fonctionnes comme ça par des mini-challenges et des mini-étapes. Et ça te permet d'avancer vite, d'avoir des succès rapides ou des échecs, mais on va dire des succès. Et là, tu peux rebondir et avancer. Et tu as l'impression que tu fais quelque chose, tu produis, tu es concentré. Donc, ça répond à beaucoup de choses dont on a parlé auparavant. Et après, pour motiver les autres, ben je crois beaucoup, moi, à la capacité oratoire des leaders et des managers. Et en fait, on le voit bien, hein, tu peux être transcendé par un discours, par une conversation. Et donc, c'est cette capacité à pouvoir transposer des idées ou des objectifs aux autres. Et ça, c'est quelque chose... pour lequel je sais que je pourrais être vraiment meilleur. Et donc, j'essaie de travailler là-dessus. Et c'est quelque chose qui, je trouve, fait beaucoup la différence, notamment dans des réunions d'équipe, dans des meetings. C'est quand tu tombes sur un leader ou un manager qui a cette faculté oratoire de te transposer ce qu'il a en tête, sa vision, ben là, ça peut te transcender, ça peut te motiver. Et dans les heures qui suivent, tu peux avoir une montée d'adrénaline ou d'endorphine qui fait que tu as envie de le suivre et que tu es prêt à tout pour ça, quoi. Et ça, moi, je suis assez admiratif de certaines personnes qui arrivent à transmettre ce genre de choses. Donc, je crois beaucoup en cette capacité oratoire et aussi à la capacité de le transmettre par écrit, ce qu'on appelle le copywriting. Et aujourd'hui, on le voit bien dans la création de contenu au quotidien. Bah, la façon dont tu écris quelque chose, ça peut aussi faire la différence et ça peut vraiment motiver les gens.
Oui, en effet, c'est quelque part ce que tu nous partages là, c'est la vision. Tu nous donnes, tu nous expliques que ça peut être à l'oral ou à l'écrit, effectivement, mais j'ai l'impression que ce que tu nous poses là derrière, c'est aussi cette capacité, oui, à transmettre cette vision, mais du coup, ça nécessite de l'avoir, oui, au préalable.
C'est vrai, mais en fait, on a... Oui, c'est vrai. Mais parce que après, ça dépend des profils, mais moi, c'est peut-être ça qui me motive pour répondre à ta question à la base. Donc moi, je suis quelqu'un qui fonctionne comme ça, plutôt à la vision ou à peut-être l'utopie ou au rêve, en me disant, bah, voilà, j'aimerais bien atteindre cet objectif ou achever ça. Mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Il y a des gens qui sont beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus cartésiens et qui fonctionnent... autrement. Et moi, c'est vrai que j'ai peut-être ce côté un petit peu rêveur ou qui se dit que, comme tu me demandais au début ce qui me motivait, donc rien n'est impossible, en me disant, voilà, on peut y arriver, tu vois. Par exemple, pour donner un exemple, quand j'ai monté ma société avec mes deux camarades, on a réussi à monter un projet solidaire en partant de zéro, sans aucune expérience, et à se retrouver au fin fond d'un village en Afrique de l'Ouest, sans eau, sans électricité, comme ça, du jour au lendemain, et ça, c'est vraiment beau, et c'est quelque chose, c'est des choses qui sont vraiment très enrichissantes. Donc, oui, essayer de se motiver en se disant qu'il n'y a pas de limite et qu'on peut y arriver, hein. Ça a l'air banal comme ça, mais c'est vraiment la clé, quoi.
Moi, ça me plaît bien. On arrive à la fin de cet entretien et de laisser ceux qui nous écoutent sur cette dimension du rêve. C'est peut-être une bonne manière de conclure. Est-ce que toi, tu as un mot pour finir cet entretien, pour un petit conseil, un dernier tips pour les gens qui nous écoutent sur le podcast de Marseille?
Encore une fois, c'est avec beaucoup d'humilité, ça dépend vraiment du parcours de chacun, mais c'est de faire le bilan de ce que l'on a fait ces dernières années et de se dire, finalement, j'ai réussi à faire ça, qu'est-ce qui me plaît? Et puis y aller à fond. Et si demain t'as envie d'aller vivre à la campagne pour faire de l'agriculture et lâcher ton super poste dans une belle entreprise, fais-le. Et puis à l'inverse, si tu veux devenir un super manager dans un grand groupe, donne-toi les moyens d'y arriver. Et en fait, si tu travailles et que tu restes concentré sur ton objectif et que tu t'y mets à fond, y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Donc voilà, il faut faire ce qu'on aime et il faut prendre du plaisir au quotidien, que ce soit dans la vie ou au boulot, et surtout dans une période actuelle, ça fait du bien, voilà.
Ouais, effectivement, on restera sur cette belle maxime, rien n'est impossible. Merci beaucoup Adrien pour ce
partage. Merci Amandine pour l'invitation et la discussion.
Et puis on te retrouve sur les réseaux pour plein de nouvelles aventures. On n'a pas eu le temps, il y a trop de choses à évoquer, on n'a pas eu le temps de parler de ton bénévolat dans le monde des startups, mais il y a plein de choses à découvrir dans ton parcours. Donc merci de nous avoir partagé un petit bout aujourd'hui, et puis à bientôt.
À bientôt, et probablement sur un bateau, j'espère.
Avec plaisir.
À bientôt.
Au revoir.
Salut Amandine.
Vous venez d'écouter « Dans la tête d'un leader », le podcast de Marseille. Si vous avez adoré cet épisode, dites-le en mettant 5 étoiles sur votre plateforme. Enfin, si les sujets que nous avons abordés vous passionnent, retrouvez-nous sur notre site internet www.marseille.com et inscrivez-vous à notre newsletter. À bientôt !